liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyennes et citoyens sont saisis pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole des citoyens tout attaché et singulier, @fréquence7.net. Aujourd'hui, le titre de notre émission, la chasse aux pauvres. Claude nous fait un point sur la situation à Mayotte. Marie-Claude va nous parler sur la fraude sociale et la fraude fiscale, ainsi que sur l'aide alimentaire. Nous étions hier à la projection du film et documentaire « Soignants suspendus entre deux mondes ». Nous vous ferons un retour avant la fin de l'émission. Claude revient sur la grande mobilisation du 1er mai. Et nous finirons notre émission par les luttes passées et à venir. Mais avant de laisser la parole aux filles, nous reprenons nos émissions aujourd'hui après quelques semaines d'absence par solidarité avec les grévistes. Nous laissons la parole donc à Claude.
Merci. Au large de Saint-Tropez, le multimilliardaire Bernard Arnault a fait couler 380 tonnes de béton dans la Grande Bleue pour amarrer son symphonie, yacht de 101 mètres de long. Quoi de plus normal ? À 8000 km de là, dans le 101e département français, Mayotte, des pauvres ont, au fil des décennies, construit un village fait de tôles ondulées, de planches en bois, de bâches en plastique. Bref, un bidonville. Gérard Darmanin leur déclare la guerre. Il va remettre de l'ordre sur cette petite île. Il fanfaronne dans l'hémicycle en déclarant « Nous allons rétablir la paix républicaine. » Comme à Sainte-Soline ? Un peu d'histoire. En 1886, l'ensemble de l'archipel des Comores passe sous protectorat français. Il est composé de quatre îles, la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. En 1946, fin de la colonisation, les Comores sont transformés en territoire d'outre-mer. Dans les années qui suivent, l'autonomie de l'archipel continue de s'étendre. En 1974, un référendum d'autodétermination est organisé. 95% de la population totale des Comores demande l'indépendance, sauf à Mayotte, où une majorité d'électeurs choisit de rester dans le giron français. Elle devient une collectivité territoriale française. C'est le territoire le plus pauvre de France. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Près d'un tiers d'entre eux n'ont pas accès à l'eau potable. Lorsque l'INSEE publie des statistiques sur le niveau de pauvreté en France, elle indique toujours hors Mayotte. C'est dire. Mais la situation est encore plus grave à 70 km de là, dans l'état des Comores, l'un des pays les plus pauvres au monde. Le PIB par habitant n'excède pas 1 500 euros contre 10 000 euros à Mayotte, 30 000 par habitant dans l'Hexagone. Mayotte représente l'Eldorado pour les Comoriens. Beaucoup de femmes viennent y accoucher. La prise en charge est meilleure. Qui sommes-nous pour laisser vivre les Mahorais ? Dans cette grande précarité, cet abandon des institutions de leur pays, la France où se trouvent 41 milliardaires. Gérald Darmanin organise une chasse à l'homme à Mayotte avec l'aide de 1800 gendarmes. Il fait raser toutes les habitations, pourchasse les gens venus des Comores, du Yémen, etc. L'opération Wambushu, reprise en main aux reconquêtes, clin d'œil sinistre à l'extrême droite, a commencé. C'est devenu un laboratoire de ce que la police française n'ose pas encore dans l'Hexagone contre nous, citoyens blancs. Elle ose à 8000 km sur une population noire. Tir à balles réelles, l'arsenal habituel et une violence injuste et illégale. La promesse avait été faite à certains habitants de relogement, mais pour 3 mois seulement. Après, les gens se retrouvent à la rue. Que va-t-il se passer? Eh bien, ils reconstruiront des abris faits de briques et de brocs plus loin.
Oui, moi j'ai été touchée par une vidéo que j'ai vue là. Un jeune homme qui de 19 ans qui explique qu'il est très attaché à son quartier en fait, et qui c'est un bidonville, il faut y penser quand même.
Ouais.
C'est ça, moi ça m'a.
Oui, mais c'est leur maison.
C'est leur maison. Ouais. Et il explique qu'il a décroché un CAP, qu'il a son titre de séjour et qu'il n'est pas expulsable, contrairement à toute sa famille. Donc voilà, c'est des cas pas croyables, quoi. C'est des vraiment. Moi, ça m'a pris les tripes quand j'ai vu ce reportage. Et en fait, ils sont très nombreux dans ce bidonville. Ils sont très nombreux à être habitants français ou étrangers en situation régulière.
Oui, et puis il y a des tensions en plus entre les gens qui sont français de Mayotte et ceux qui viennent des Comores. Il y a des tensions extraordinaires. Mais c'est vrai que la justice a suspendu. Hein, normalement, il ne se passe en ce moment rien. Les bidonvilles ne sont pas. Ce qui va. Mais bon, connaissant Darmanin, il va encore bien trouver une solution pour faire son travail de sape.
C'est ça.
Merci. Donc, Marie-Claude, tu vas nous parler sous la fraude sociale et la fraude fiscale.
Oui. Alors, Emmanuel Macron veut lutter contre les fraudes, qu'elles soient sociales ou fiscales. Pourtant, Bruno Le Maire insiste sur un seul type de fraude, la fraude sociale. Et encore plus particulièrement sur les allocations qui partent à l'étranger, mais pas n'importe où, au Maghreb. Alors bien sûr, la fraude sociale pèse sur nos finances publiques, mais de là à ne parler que de celle-là, c'est tout de même incroyable. La fraude sociale aux allocations est estimée à 2,3 milliards par an, chiffre officiel de la Caisse nationale des allocations familiales. Bruno Le Maire ne parle pas de la fraude aux cotisations sociales des entreprises. Le travail dissimulé d'après l'URSSAF, cette fraude coûterait 7 à 9 milliards d'euros chaque année à l'État. Il ne parle pas non plus de la fraude fiscale qui, d'après l'évaluation du syndicat solidaire finances publiques, serait de 80 à 100 milliards d'euros chaque année, soit 35 à 40 fois plus que la fraude aux allocations. Cette fraude fiscale vient essentiellement des grandes entreprises et des grandes fortunes. Pourquoi cette focalisation sur les fraudes sociales de la part du gouvernement ? Veut-il détourner notre attention, l'attention des travailleurs, de tous ceux qui en ce moment manifestent contre la réforme des retraites, qui nous a été imposée d'ailleurs ? Veut-il se mettre le RN dans la poche ou marcher sur ses plates-bandes ? En fait, il y a très peu de fraudes sur les allocations envoyées au Maghreb. Et pourtant, Bruno Le Maire décide de ne parler que de ça, les fraudes aux allocations sociales envoyées au Maghreb. J'ai vu une vidéo de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, dans son sujet « Faut-il lutter contre les fraudeurs ?». Il explique que stigmatiser sans argument une partie de la population sur le seul fondement de son origine, c'est la définition même d'un stéréotype raciste. Et si on parlait plutôt de fraude fiscale et d'évasion fiscale ? On se souvient de Google, Facebook, Apple, qui échappent à l'impôt en passant par l'Irlande, ou encore Nike, qui planquait aux Pays-Bas tous ses bénéfices réalisés en Europe, afin de ne payer que 2% d'impôts, ou encore McDonald's, qui avec un accord secret avec le Luxembourg, faisait de l'évasion fiscale plein pot. L'évasion fiscale des multinationales est au cœur de la mondialisation. Elle mine les recettes, les États, et crée une énorme injustice sociale. La France perd un quart des recettes, soit entre 20 et 25% de pertes en impôts sur les bénéfices. Alors que les entreprises de moins de 10 salariés payent en moyenne 30% d'impôts sur les bénéfices, celles du CAC 40 n'en payent en moyenne que 8%. Les multinationales s'enrichissent car l'impôt sur les sociétés que devrait prélever la France part dans les paradis fiscaux. La fraude à la TVA, c'est entre 20 et 25 milliards de manque à gagner par an. Pourtant, Macron et son gouvernement choisissent d'établir un plan de lutte à la fraude sociale. L'exécutif a déjà acté l'interdiction de verser des allocations sur des comptes bancaires non européens. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Donc, les mesures principales du plan de lutte, c'est doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire des finances, interdiction du versement des allocations sur des comptes non européens, l'harmonisation des conditions de résidence pour obtenir des aides et l'accès aux fichiers des voyageurs pour pouvoir faire des contrôles. Je rappelle ici que les services de contrôle administratif ont perdu plus de 3 000 emplois depuis 2008. Entre 2008 et 2019, on est passé de 1 million à 440 000 contrôles. Et que fait-on pour toutes ces personnes qui ne réclament pas leurs droits? Par exemple, rien que pour le RSA, c'est 34% de personnes normalement bénéficiaires qui ne le réclament pas. Pour le minimum vieillesse, c'est une personne sur deux qui omet de le demander, soit 1 milliard d'économies, et ça, on n'en parle pas. Ça, ce sont des données de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques.
En fait, c'est juste pour stigmatiser les pauvres, pour faire oublier que les milliardaires s'en mettent plein les poches. Et si on les faisait payer, ces milliardaires, on n'en parlerait pas de la fraude sociale.
Non.
On n'en parlerait pas, parce que c'est rien. C'est rien par rapport au budget.
Non, et puis bon, même si on court après la fraude sociale, il faut qu'il y ait en contrepartie qu'on recherche les fraudes fiscales, en fait, les fraudes, l'évasion, que ce soit logique quand même, jusqu'au bout.
Qu'on aille d'abord chercher l'argent chez les gros, chez les milliardaires, les capitalistes.
Oui, je reviens et Marie, sur les 30% d'impôts qui payent les PME, enfin à partir des moins de 10 salariés. C'est vrai que lorsqu'on est travailleur indépendant, c'est vrai qu'on a 50% des cotisations sociales qui partent. Donc, on ne sait pas où, mais c'est vrai, comparé à des grosses sociétés qui payent uniquement des 8%, des 5% et parfois des exonérations, c'est vrai que pour les petits travailleurs, pour des indépendants, c'est vrai qu'un prélèvement des 50% des chiffres d'affaires, c'est vrai que c'est énorme.
Ah oui, personnellement, les petits payent plus que les gros.
Oui, les petits payent beaucoup plus que les gros. Très bien. Merci. Donc hier nous étions à la projection des films documentaires Soignants suspendus de Fabien Moine, naturopathe, qui a été organisé par l'association Courant d'Alternatives à Saint-Étienne-des-Fonds-Bellon. Ce documentaire, c'est un recueil des témoignages des médecins généralistes, cardiologues, psychologues, sages-femmes sur toute la France, lesquels, du jour au lendemain, se sont restés sans revenus, pas de chômage, pas de RSA, plus de statut, parce qu'ils sont tout simplement refusés de se faire injecter. Après la projection de ces documentaires, il y a eu un échange entre le public et les organisateurs. Des témoignages très touchants sur la difficulté de se retrouver sans salaire dans l'indifférence et l'oubli total. Ce sont des soignants que nous côtoyons tous les jours ici dans le bassin albénacien. Et donc, il y a quelqu'un que nous connaissons très bien, qui a fait un témoignage très poignant concernant donc l'indifférence dans laquelle elle vit aujourd'hui, du fait qu'elle n'a plus de revenus depuis 18 mois. Et donc après la projection, l'échange, les organisateurs nous ont appris qu'une grande partie du fonds récolté ira donc au collectif de soutien aux soignants suspendus. Nous y reviendrons dans une prochaine émission.
Mais nationalement, certains groupes de députés ont demandé depuis longtemps dans les niches parlementaires la réintégration des soignants. Et le jour où ces députés ont demandé, le gouvernement a fait une obstruction en mettant des milliers d'amendements pour pas que parce qu'en fait ils refusent. On est toujours là, c'est le statu quo, ça bouge pas.
Je crois qu'on est le dernier pays à les réintégrer,
c'est
en fait.
C'est complètement hypocrite. On manque de soignants et on réintègre pas ceux qui sont suspendus. Je comprends pas. Je pige pas le...
D'autant plus que là, j'ai une amie qui est dans le sud, là, et elle m'a envoyé, elle me dit qu'elle avait un contrôle à l'hôpital, et elle me dit que c'est la première fois qu'elle rentre dans l'hôpital sans masque. Donc ça veut dire que déjà, on
a... Ça fait huit jours que...
Je veux dire, ils auraient dû être réintégrés depuis longtemps.
Il n'y a aucune logique. Ouais, c'est vrai.
Et oui, donc il y a parmi tous ces exemples, malheureusement, concernant des suppressions des revenus, Marie, tu voudrais nous donner un exemple concernant cet octogénaire qui a dû se remettre à travailler.
Alors oui, je suis tombée sur un article, ça m'a un peu... on parle toujours de retraités bientôt qui feront des retraités pauvres. C'est déjà là, de toute façon. C'est déjà là. Et en fait, en Essonne, après 15 ans de retraite, un octogénaire est contraint de retravailler. Et c'est pour vivre, parce qu'il n'y arrive plus, en fait. Et il a 80 ans. Et il a décidé donc de retravailler. Il a un emploi de 10 heures par semaine. Et donc, ce monsieur a travaillé dans le BTP. Sa pension est de 905 euros par mois. Donc, moi, il me semble que le seuil de pauvreté, moi, je crois qu'il est de 1102 euros par mois.
C'est au-dessus.
Mais du coup, je suis allée chercher un peu les chiffres de... Et en fait, en France, il y a près d'un Français sur 10... âgé de plus de 65 ans, qui vit au moins avec moins de ce que ce revenu encore, qui vit avec moins de 900 euros. C'est dingue. Mmh. Et en fait, il y a 495 000 retraités qui cumulent avec des pensions et des revenus salariés, déjà, à l'heure actuelle. Et donc... Il va le faire, en fait, dans la réforme des retraites, il va le faire un cumul... emploi-retraite. Ça y est déjà là, actuellement. Mais ce qui va le faire, c'est que les retraités vont ça va leur ouvrir, en fait, s'ils reprennent après une retraite à taux plein, ça va leur rouvrir des nouveaux droits à la retraite. Alors moi, je me dis, j'ai quelques questions quand même là-dessus, parce que c'est pas très clair quand même. Et je me dis, ouvrir de nouveaux droits, c'est bien, mais quand on a 80 ans, et qu'on vous prend encore des cotisations sur le peu que vous gagnez, je trouve ça complètement aberrant. Quand un jeune travailleur va à 30 ans et il cotise, il pense qu'il va avoir une retraite à un moment ou à un autre. Mais à 80 ans, si on vous prend déjà le peu que vous gagnez, ouais. C'est dingue quand même.
C'est vrai que leur réforme de retraite qu'ils vont enlever, parce qu'on va les faire plier, je suis persuadée. Elle n'est pas claire, ils ont menti tout le temps, et ça jettera des gens dans l'extrême pauvreté. Alors il y a un truc qu'il faudra que les gens qui nous écoutent se disent, les 4 250 000 bénéficiaires, entre parenthèses, du RSA, vont devenir un vivier de futurs esclaves. Et un jour, quelqu'un qui cherche du travail, qui sortira de France Travail, se trouvera en compétition avec un bénéficiaire du RSA qui prendra la place, puisque le patron sera bien content d'employer un mec qui est payé par le département.
Ou d'un retraité qui va reprendre un travail.
Là, c'est pour ça qu'il faut que les... Voilà.
Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je me souviens, quand on était jeunes, on avait du boulot. On pouvait travailler pour payer ses études et tout ça. Maintenant, les jeunes, ils vont être en concurrence avec toute cette partie de la population. Et ils ne vont pas pouvoir travailler pour se payer des études. Ouais. Parce que ça va être encore plus important. Et puis le chômage, et puis tout, quoi.
C'est vrai que cette dérive de folie, on la pressent, mais quand les gens vont avoir le nez dessus, il va y avoir des drames, hein, c'est sûr que... Donc c'est pour ça, le projet de retraite de Macron, ils vont le retirer. Pardon, je tape sur la table.
Marie, donc tu peux nous revenir sur l'aide alimentaire aussi, c'est un autre sujet qui...
Oui, alors en fait, l'aide alimentaire, je suis allée, pareil, je cherche un peu en ce moment tout ce qui est le dérèglement en ce moment de nos institutions qui étaient avant, en fait, et de ce que font les gens pour pallier au manque de l'État. Ouais. Et donc l'aide alimentaire, il y a de plus en plus de pauvres, et même si beaucoup préfèrent renoncer à une honte, par honte à un soutien alimentaire, l'aide alimentaire s'est banalisée sous l'effet des crises successives. Donc... Il y a eu le chômage, il y a eu le Covid-19, l'austérité et maintenant l'inflation. Chaque crise amène des nouvelles catégories de bénéficiaires, pourtant les anciennes catégories sont toujours là. Étudiants précaires, mères célibataires, salariés, pourtant en CDI, et maintenant des retraités qui s'ajoutent à tous ceux qui étaient déjà dans le besoin. En 2018, 5,5 millions de personnes qui avaient recours à une aide alimentaire. Ce chiffre avait déjà doublé en 10 ans. En 2022, toujours d'après les associations, c'est 7 millions de personnes, mais l'INSEE revoit ce chiffre à la baisse et dit entre 2 et 4 millions. Que fait l'État ? Il oppose les uns aux autres, déplace le curseur pour trouver le seuil de pauvreté, on fait la chasse à la fraude sociale, et si les associations n'étaient pas là pour prendre les choses en main, que se passerait-il ? Dans tout ça, tout ce questionnement m'amène à penser que les bénéficiaires endurent leur lot de honte et de tristesse, alors que pour d'autres, l'aide alimentaire est devenue rentable. Les acteurs de la grande distribution peuvent ainsi écouler leurs produits périmés moyennant des ristournes fiscales. L'aide alimentaire permet aux agriculteurs d'écouler leurs fruits et légumes qui seraient déclassés ou refusés dans le commerce. Elle permet aux producteurs de viande de recycler les bas morceaux dans les plats à faible coût, destiné à des associations caritatives. L'aide alimentaire est entrée dans le complexe agro-industriel et il est possible maintenant de la monnayer.
Merci Marie. Donc nous passons la parole à Claude pour les luttes passées et à venir, notamment sous la grande mobilisation du 1er mai.
Alors donc le 1er mai, c'était un lundi, c'est lundi, nous étions 4000 à Aubenas. C'était un défilé haut en couleur, des chansons, des slogans. Je ne l'ai pas vu parce qu'on était trop nombreux. Moi, je passe mon temps à faire des photos. Mais nous avions la visite de Monsieur Martinez, l'ex-secrétaire général de la CGT, qui était derrière la banderole. Je pense que les gens n'ont pas l'intention d'abandonner. Ça s'est bien passé à Aubenas. Par contre, j'ai regardé, télé. Et réseaux sociaux, la dérive sécuritaire de la Macronie commence vraiment à poser problème. Il y a eu dans les manifs à Paris, ils ont abandonné le nassage. Monsieur Lallemand l'utilisait. Nunez a pris une autre tactique, c'est-à-dire qu'il bloque carrément le cortège dès le début, en prétextant des hommes en noir. Et je peux vous dire que les hommes en noir, si les flics de Paris voulaient s'en débarrasser ou les mettre de côté, ce serait possible. Mais ils se servent des black blocs pour casser le rythme de là. Et après, c'est les coups de matraque. Franchement, en tant qu'être humain, je dis, il faut qu'on se révolte. C'est plus possible de supporter ça. Et ça va aller crescendo. Ils vont pas arrêter.
Ouais. Énormément de violence, ouais, c'est ouais. Vrai.
Il y a eu peur. Donc à Nébornier, il y a eu une main arrachée.
Ouais, et puis des arrestations complètement arbitraires. Ouais. Hein. Même mon médecin ce matin qui m'a dit qu'un de ses amis, prof de philo, a passé 2 jours en garde à vue parce qu'il était à côté d'un jeune homme qui a mis le feu à une poubelle. C'est lui qui a été pris. Oui, je voulais aussi vous dire, on est allé en solidarité devant l'EHPAD. Encore une fois, ça fait la 3e fois en 2 ans. De Madé Vinobre à Saint-Cernin, les travailleurs étaient en grève. Moi, je suis venue au moment où la négociation démarrait avec la direction, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils étaient. L'EHPAD est donc géré par un fonds de pension Bridge. Voilà, donc ça continue.
On aura des informations par notre prochaine émission. Oui. D'accord, s'il n'y a pas d'autres informations, donc la prochaine émission dans 15 jours, nous vous rappelons le mail pour vos réactions, infos, suggestions, parole des citoyens tout attaché au singulier, @fréquence7.net. Merci beaucoup les filles.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.